Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
La rumeur est quelque chose de terrible. On croit vivre l'époque des fake news car l'écho que leur donnent les réseaux sociaux est inédit, mais la rumeur a toujours existé. Elle n'a eu besoin pour proliférer ni de Twitter ni de Facebook, mais seulement du goût atavique des hommes pour les potins. Plus invraisemblable est le potin, plus les hommes ont envie d'y croire. Ainsi sommes-nous faits. La preuve, une rumeur a longtemps prétendu que Stéphane Bern chantait comme une casserole.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai un jour sans retour.
Sachez que personnellement, moi qui ai fait 2-3 karaokés avec vous, je n'ai jamais cru à cette rumeur, Stéphane.
Je vous en remercie et bonjour Mathieu, pourtant c'est vrai. Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter autour de trois personnages qui ne se sont jamais croisés jusqu'à aujourd'hui. Trois personnages qui ont un point commun, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans l'émission.
Et oui Stéphane, aujourd'hui leur point commun, c'est qu'à leur sujet, on s'est tous un jour exclamé
« Mais dis-moi pas que c'est pas vrai !»
Ils ont été victimes de fausses rumeurs.
Je vous raconterai la folle rumeur qui a touché Georges Pompidou et son épouse en particulier, qui auraient participé à des parties fines. Une rumeur qui a fait grand bruit dans les rédactions, alors que personne n'osait alors en parler au principal intéressé. Puis autre pays, autre rumeur, l'industriel Henry Ford sera candidat à l'élection présidentielle, celle de 1924 en tout cas. Une rumeur là aussi. Mais pourquoi ? Je vous raconterai cela. Quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'une rumeur incroyable qui a visé la chanteuse Sheila.
Une rumeur incroyable qui prétendait qu'elle chantait juste.
Non Mathieu.
Ah non, pardon, qu'elle était un homme, c'est l'autre rumeur. Avec nous également en studio Stéphane, comme chaque après-midi, aucune rumeur ne circule à ma connaissance sur eux, à part peut-être qu'on les croise souvent dans les soirées...
Un peu libertines.
Mais oui.
Surtout elle.
Surtout elle.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde.
Clément. Là, on s'endort, Stéphane. Non, ça doit être érotique.
Oui, c'est érotique.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde.
À vous de jouer. Clémentine,
Oui, surtout que moi,
c'est un début, quoi.
Oui,
c'est
quand on me trouve dans ce genre de soirée, généralement, je suis muni d'une schlag. Donc, c'est pas du tout dans la mollesse. Alors, il y a quand même un sujet qui relève, par essence, de la rumeur et de la petite histoire en histoire de France. C'est celle des enfants naturels de nos rois. Alors, aucun mystère avec des Henri IV et Louis XIV. Eux, ils ont légitimé leurs enfants naturels, il n'y avait pas de problème. Mais Louis XV, lui, est connu pour avoir systématiquement refusé de le faire. Il a eu 7 enfants naturels, mais il en a légitimé un seul. Pourquoi ? Eh bien, évidemment, la rumeur, c'est ça, c'est que moins on en sait, plus les rumeurs circulent et plus ça.
On connaît le mécanisme. Avec nous également, Stéphane, David Castello-Lopez, qui remonte pour nous aux origines des inventions. Bonjour David.
Bonjour.
On sait que vous avez à une époque réfléchi à une opération pour limiter cet espace interbucco-dentaire nasal que vous avez un peu développé à votre goût. Mais aujourd'hui, vous nous parlez d'un autre type d'opération.
Non, c'est vrai que cet espace était beaucoup trop grand. J'ai un peu réglé le problème, je ne sais pas si vous êtes d'accord, avec la moustache.
Ah, mais moi, j'ai jamais vu que vous aviez aucun problème.
Voilà, mais si je me rase, vous ferez... Je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Mais non, aujourd'hui, c'est des opérations de changement de sexe, qu'on ne devrait pas d'ailleurs appeler changement de sexe, mais réassignation de sexe. Ah. Et je vous expliquerai pourquoi et aussi l'histoire de ces opérations.
Et sans rapport l'un avec l'autre, Olivier Pouls nous parlera d'un plat... qui se mange beaucoup en Espagne, non ?
C'est l'emblème même, on peut le dire, de la cuisine espagnole, la paella.
Mais je te dis ça à chaque fois, le gazpacho, c'est l'emblème de la cuisine espagnole. Vous en avez beaucoup des plats qui sont emblèmes de la cuisine espagnole.
Il y a quand même une belle richesse de gastronomie en Espagne. J'espère qu'ils n'ont pas qu'un seul plat emblématique. Nous, regardez en France, combien on en a ? On en a des dizaines.
Et la tortilla, c'est pas l'emblème
Ça sera pour demain.
Enfin, Stéphane, vers 5h-10, on sera bien obligé de se pencher sur cette rumeur selon laquelle vous seriez en perte de vitesse dans l'épreuve du quiz.
Non, au contraire. Clémentine
a même déclaré dernièrement, si on était dans Question pour un champion, ça fait longtemps qu'il aurait dégagé avec 3 encyclopédies sous le bras le loser. Bref, nous jouerons à Burn to be Alive. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage historique victime d'une terrible rumeur. Stéphane Bern a enquêté sur les nuits, soi-disant un peu olé olé, de Georges Pompidou.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Vous connaissez le dicton, Mathieu, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et s'il y a un milieu propice à la rumeur, c'est bien celui du pouvoir. La médisance et les racontars ont toujours servi à salir une réputation et à briser des carrières. Et parmi toutes ces perfidies, il y a une arme peut-être plus puissante encore que les autres, le sexe. C'est vieux comme le monde d'ailleurs, il suffit de se rappeler que les adversaires de Jules César faisaient des gorges chaudes, des infidélités et de la bisexualité du dictateur dont on murmurait qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris.
Sans aucun fondement, vous me l'avez appris dans cette émission.
Pourtant, notre récit ne nous emmène pas dans les ruelles romaines, mais dans une décharge publique à Élancourt dans les Yvelines, le 1er octobre 1968. Quelques mois avant les élections présidentielles de 1969. Là, au fond d'un ravin, commence une affaire qui va bientôt éclabousser un ancien Premier ministre et un futur président de la République, Georges Pompidou. Ce matin-là, on découvre le cadavre d'un homme d'une trentaine d'années, enveloppé dans une large housse de plastique, le crâne défoncé. L'homme est mort depuis plusieurs jours, mais la police judiciaire ne tarde pas à l'identifier. Ce corps, c'est celui de Stéphane Markovitch. Stéphane Markovitch est un petit truand sans envergure à première vue, mais aussi un beau gosse qui avait assez de bagou pour se faire une discrète place dans le milieu du cinéma et du spectacle. Et c'est d'ailleurs ce qui va mettre Markovitch à la une de tous les journaux de l'époque. Son dernier employeur est Alain Delon, la star du Guépard, de Visconti et du Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui tourne à ce moment-là la piscine aux côtés de Romy Schneider. Pour Delon, Markovitch a joué les chauffeurs et les gardes du corps avant de se faire répudier pour avoir eu une brève aventure avec son épouse, Nathalie Delon. Mais si les enquêteurs s'intéressent à l'acteur, c'est parce que dans une lettre laissée à son frère, Markovitch avait prévenu qu'en cas de malheur, il faudrait s'intéresser à deux personnes, un certain AD, les initiales d'Alain Delon, et François Marcantoni, l'une des grandes figures du banditisme d'après-guerre.
Mais alors Stéphane, quel est le rapport, je n'ai pas bien saisi, entre Markovitch, Alain Delon et Georges Pompidou?
Eh bien vous allez voir, cette histoire finit par éclabousser Georges Pompidou à la suite d'une cascade d'événements. D'abord, on découvre que Markovitch est mort d'une balle dans la nuque. C'est une exécution, pas une bagarre qui a mal tourné. Puis, une rumeur commence à enfler dans le tout Paris. Au-delà des petits services qu'il rendait à droite à gauche, on murmure que Markovitch faisait dans le chantage et l'extorsion de fonds. Le 17 octobre, le journal Minute ouvre le feu avec un titre « L'ami des vedettes négociait très cher des photos compromettantes ». L'article évoque des soirées un peu spéciales, autrement dit des parties fines, et écrit pour la première fois que l'épouse, femme d'un homme politique, participait à ces soirées échangistes. Georges Pompidou, qui a quitté Matignon au lendemain de mai 68 et conduit par le général de Gaulle, est à mille lieues de s'en douter. Pourtant, dans les milieux mondains, on commence à raconter que cette femme, eh ben, c'est la sienne. J'ai nommé Claude Pompidou, avec qui il est marié depuis 35 ans. Dans cette France, encore très conservatrice sur le plan des mœurs, les Pompidou payent là leur proximité avec la vie mondaine parisienne. Pompidou est certes un homme politique de premier plan, mais aussi un amoureux des arts et des spectacles, un bon vivant qui roule en Porsche et n'hésite pas à s'afficher avec les vedettes du moment, bien loin de la sobriété affichée du couple Charles et Yvonne de Gaulle. Et dans certains milieux traditionnels, cela a du mal à passer. Pendant de nombreuses semaines, personne ne prévient Georges Pompidou de la folle rumeur qui court au sujet de sa femme, à mots de moins en moins couverts. Certains n'osent pas tout simplement, d'autres, souvent plus politiques, sont ravis du scandale qui s'apprête à exploser au visage de Pompidou. Et c'est bien ce qui se passe dès le 30 octobre, lorsque les gardiens de la prison de Fresnes interceptent une lettre signée d'un petit délinquant yougoslave, Borivo Jakov. Dans cette lettre, versée à la procédure, le nom de Claude Pompidou est officiellement évoqué pour la première fois. Jakov affirme avoir organisé des partous avec Markovitch et prétend y avoir croisé l'épouse de l'ancien Premier ministre. Tout cela vire, vous en doutez, à l'affaire d'État. Le général de Gaulle en est informé le 1er novembre, en plein week-end de la Toussaint. Le général aurait répondu que ça apprendra à Pompidou à trop fréquenter Saint-Tropez. Mais demande expressément à ce qu'on alerte son ancien Premier ministre. Mais là encore, personne ne décroche son téléphone. C'est seulement le 4 novembre qu'un des collaborateurs du président ose enfin prendre à part Pompidou pour lui dire ceci. Il faut que vous sachiez quelque chose que personne n'ose vous dire. Cette femme dont tout le monde parle, c'est la vôtre. Et il n'est question que de ça dans les dîners en ville et dans les rédactions. Pour Georges Pompidou, c'est un coup de tonnerre. Il est écœuré, bien entendu, blessé qu'on s'attaque à l'honneur de sa femme et au sien. Mais l'homme politique entre surtout dans une rage folle en réalisant que personne, absolument personne, dans les allées du pouvoir n'a cru bon de le prévenir de cette terrible rumeur qui se murmurait dans son dos depuis des semaines maintenant. Georges Pompidou est très touché en découvrant que personne n'a pris la peine de le prévenir du scandale qui est sur le point d'exploser. L'homme est en colère, mais une colère maîtrisée. Très vite, Pompidou se forge une conviction. Non seulement c'est lui que l'on cherche à abattre politiquement à travers son épouse, mais il y a des choses curieuses dans ce dossier. À commencer par cette lettre envoyée par Borivoje à Kov dans un français parfait alors que l'homme est un détenu yougoslave à moitié illettré. Alors Georges Pompidou se bat pied à pied. Durant le mois de novembre, il passe ses journées à recevoir des journalistes pour leur démontrer que toute l'affaire est une coquille vide, une rumeur abjecte et sans fondement. Mais surtout, Pompidou ne pardonne pas à De Gaulle, à qui il reproche son manque de soutien. Et Pompidou va oser ce qui était encore alors impensable quelques mois plus tôt. 4 ans avant la fin théorique du deuxième septennat de Charles de Gaulle, il annonce qu'il sera candidat à la présidentielle quand il y en aura une. C'est une petite bombe qui revient à rappeler que le général n'est pas éternel et qui sous-entend que De Gaulle pourrait ne pas aller au bout de son mandat. De Gaulle sent le danger d'ailleurs, il réplique sèchement qu'il a le devoir et l'intention de remplir son mandat jusqu'à son terme. Entre les deux hommes, la rupture est définitive, même s'il tente encore de sauver les apparences avec un repas officiel à l'Élysée où le couple De Gaulle reçoit le couple Pompidou. Mais l'ambiance est morne, le soutien de façade, et personne ne s'y trompe. C'est un adieu. On connaît la suite. Au lendemain d'un référendum perdu, le général de Gaulle démissionne en avril 1969. 2 mois plus tard, Georges Pompidou succède à celui qu'il avait nommé Premier ministre 7 ans plus tôt et devient le nouveau président de la République. L'affaire criminelle, elle, n'aura jamais de fin. François Marcantoni, le principal suspect du meurtre, finit par bénéficier d'un non-lieu en 1976, 7 ans après les faits. De l'affaire Markovitch, il reste un dossier lourd d'une tonne et demie, le poids des 60 000 pièces judiciaires archivées au tribunal de Versailles. On ne saura jamais qui a tué Markovitch. En revanche, on sait que Pompidou a réussi à résister au pire des poisons, celui de la rumeur.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de la folle rumeur qui a touché le couple Pompidou, nous sommes avec celle pour qui la politique n'a aucun secret, peut-être même pas celui-là, la journaliste politique et éditorialiste d'Europe 1, Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour Catherine Ney. Lorsque cette rumeur se répand fin 1968, vous êtes à la rédaction de l'Express. Comment est-ce qu'elle parvient à vos oreilles?
En allant à l'Assemblée tous les jours, comme on le faisait à l'époque avec Michel Cotta. Vous savez, dans les couloirs, les députés. Mais ça, c'était vers la fin octobre, alors que le cadavre a été découvert au début du mois. Et on commençait à dire, mais il y a une histoire de partouze. On parlait d'une femme d'un ministre. Et puis, avec les jours, cette femme de ministre est devenue Madame P. Je crois que Minute avait parlé de Madame P. Alors, Madame P comme Pompidou, vous voyez. Donc, on commençait à le dire. Et puis, on rencontrait certains députés qui nous disaient, mais on a vu des photos. Certains racontaient ça avec gourmandise et d'autres en horreur. Enfin, donc, tout le monde s'est dit, mais il y a Madame Pompidou. Bon, alors, le général de Gaulle est averti par Bernard Tricot pendant la Toussaint. Et il dit, écoutez, il faut prévenir les Pompidou qui, à l'époque, étaient à Cajar en week-end pour la Toussaint. On leur dit, on va pas les déranger. Et donc, on dit, c'est Monsieur Couve de Murville, le Premier ministre, qui doit prévenir M. Pompidou. Mais vous savez que les deux ne s'entendaient pas du tout. Et Couve, c'était la HSP, la Haute Société protestante, quelqu'un de guindé, qui ne s'était jamais entendu avec Pompidou. Il y avait une jalousie entre eux, c'était pas le même monde. Et lui, il appelait Pompidou l'Auvergnat, vous voyez. Bon. Et donc, comment aller dire à Pompidou, qui était quand même une force de la nature, dont on craignait l'autorité, qui pouvait réagir très violemment, je viens vous dire que votre femme, il paraît que votre femme a participé à des partouzes. Ce qui, quand on connaît Madame Pompidou, était absolument, impossible à croire, vous voyez.
Mais justement, elle prend cette idée? Vous, les journalistes, vous en pensiez quoi? Comment elle prend cette idée?
Mais si vous voulez, quand le général, après, a une réunion avec Capitan, le ministre de la Justice, et Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur, et qu'on lui raconte tout ça, il dit, il faut voir. Et pourquoi il faut voir? Parce que non qu'il pense que la vertu de Madame Pompidou Pompidou est en cause, mais parce qu'il pensait que les Pompidou étaient imprudents. Lorsque Pompidou a été nommé en 62 Premier ministre, il disait, écoutez, non, vous ne pouvez plus aller à Saint-Tropez en vacances, c'est pas possible, c'est un endroit où on fait la bamboche, où on rencontre des gens qu'il ne faut pas fréquenter, c'est dangereux ces gens-là. Et puis, pour le général de Gaulle et sa femme, de Saint-Tropez, où on montrait son corps, c'était quelque chose, c'était la licence absolue, vous voyez, on racontait que Madame Pompidou prenait des bains de soleil dans son jardin topless.
Oh là, mon Dieu. Alors, c'est un classique de s'en prendre non pas à la personne qu'on veut déstabiliser, mais à ses plus proches. C'est le coup classique.
Oui, c'est le coup classique. Et pour Georges Pompidou, toucher à sa femme, qu'il aimait, mais vraiment, c'était vraiment un couple fusionnel, qui s'entendait très très bien. Je veux dire, c'était une atteinte double. C'était lui et sa femme, et ça, c'était vraiment une colère et un malheur fou. Et il attendait du général de Gaulle, qui avait très bien connu le couple, une lettre d'encouragement. Or, le général n'en fait rien. Donc, Georges Pompidou demande une entrevue et s'explique auprès du général de Gaulle. Et déjà, je veux dire, ça a chauffé entre les deux hommes. Et comme il écrit dans ses mémoires, j'ai senti que le général de Gaulle n'était pas très à l'aise avec ce que je lui disais. Mais il n'empêche, la rumeur est telle que tout ce mois de novembre, où, eh bien, les Pompidou ne sont plus invités. Alors qu'avant, ce premier ministre, qui était quand même le gagnant de mai 68, c'était pas de Gaulle, c'est lui le gagnant des élections législatives de juin 68. Donc, il n'était plus invité. Et alors, il se passe un événement aussi. Il y avait la réception d'une anse apostolique où sont invités les Pompidou. Et M. Pompidou voit Mgr Marty, qui est un avocat contre lui, qui était l'archevêque. Il veut le saluer. Et il voyait que plus il s'approchait de Mgr Marty, plus il faisait le tour de la pièce. Et il a dit après à Balladur et Jobert, je lui ai fait faire le tour de la pièce. Vous voyez, même l'église se détournait de lui. D'où, au mois de janvier, sa hâte à être reçue par le Saint-Père. Vous voyez, c'est pour montrer que voilà, qu'il était, si le cardinal ne voulait pas lui parler, mais que le Saint-Père le recevait avec son épouse. Mais c'était très important.
On se demande toujours, alors à la fin, on se demande d'où qui lance les rumeurs.
Pourquoi
est-ce qu'il y a une explication? C'est-à-dire, il n'est plus Premier ministre. De Gaulle l'a remercié. Mais alors, qui lui en veut?
Mais je pense, il y a une jalousie. Bon, il y a une jalousie des gaullistes historiques, des résistants, parce qu'ils n'ont jamais apprécié, mais c'est une vieille histoire depuis 45, que Georges Pompidou, qui n'était pas résistant, qui n'avait pas été à Londres, qui avait fait la guerre, qui n'avait pas pactisé avec l'ennemi, soit devenu très vite, aussi vite, le chouchou du général de Gaulle. Que le général de Gaulle en ait fait son chef de cabinet. C'était lui, Pompidou, qui tenait l'agenda et qui disait à un tel, vous pourrez le voir ou vous ne pourrez pas le voir. Donc pour eux, c'était insupportable. Mais le général avait été séduit par ce normalien qui arrivait pour faire des notes sur l'éducation nationale, d'abord parce qu'il faisait des notes et qui étaient bien écrites, et parce qu'il avait l'avantage, par rapport aux résistants, qui étaient à Londres ou qui étaient à Alger, de connaître ce que la France avait vécu pendant la guerre. Donc il s'est amouraché de Georges Pompidou, l'invitait à dîner avec son épouse quand ils étaient très jeunes, et puis après, lorsqu'il a démissionné en 46, ce que Georges Pompidou n'a pas compris. Le général espérait être appelé très vite et puis pas du tout. Donc Georges Pompidou s'est dit, bon, mais il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. Mais donc, il est entré à la banque, on lui a proposé d'entrer chez Rothschild, il est devenu chez Rothschild, où tout d'un coup, après avoir eu la gloire politique avec De Gaulle, il avait l'argent, les Rothschild s'entichaient de lui, il participait à toutes les fêtes, on ne voyait plus que les Pompidou en tenue de gala, et puis il y avait de l'argent aussi, il gagnait de l'argent, et les barons se moquaient de lui en disant c'est notre bourgeois gentilhomme, vous voyez, de la jalousie.
Mais alors, il y a cette jalousie qui explique beaucoup de choses, Catherine, mais il y a aussi, c'est plus qu'une rumeur, ça devient une affaire, ça devient l'affaire Markovitch quand même, avec la mort suspecte, et en plus cette affaire n'a jamais été résolue.
Je ne sais pas pourquoi, mais le garde des Sceaux, il faut dire que Georges Pompidou avait un ennemi héréditaire. C'était le garde des Sceaux, René Capitan, qui était un gaulliste de gauche, qui a été, durant tous les 6 ans où il a passé à Matignon avec Louis Vallant, mais des ennemis qui passaient leur temps à lancer des piques, ils l'appelaient Bougnaparte, enfin, parce que Georges Pompidou s'était opposé à un projet de réforme de l'entreprise où les deux, là, voulaient donner le pouvoir aux ouvriers, comme autrefois on avait distribué la terre aux agriculteurs, enfin aux manants. Et donc le général était d'accord et Pompidou s'y était opposé. Et donc Louis Vallon a appelé Pompidou les oies du capital. Enfin bon, ça a été des ennemis, ils le détestaient. Voilà.
Catherine, cette affaire, c'en est une effectivement, mais c'est une affaire qui finalement ne lui a pas coûté la présidentielle puisqu'il est élu président de la République. Est-ce que ça aurait pu lui coûter la présidentielle? Est-ce que ça, ça s'est joué à peu de choses finalement?
Non, c'est tout à fait ceux qui ont instrumentalisé cette histoire. Et bien finalement, dans l'espoir de casser Pompidou, ont en réalité précipité la fin du général et ont fait la courte échelle à celui auquel ils voulaient nuire. C'est ça la morale de l'histoire.
Mais comme toujours, elle est épatante. Merci Catherine Ney. On vous retrouve samedi à 10h dans le nouveau rendez-vous des Grandes Voix d'Europe 1 animé par Sébastien Guyot et en librairie, je rappelle, avec votre dernier livre Souvenir, Souvenir, qui était paru en 2019 et qui est réédité ces jours-ci en poche chez Pocket.
Mais oui, merci de le dire.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Toutes les histoires, même les plus intimes. Avec Clémentine Portier-Kaltenbach.
Aujourd'hui, messieurs, je vous parle des enfants naturels de Louis XV. Comme Louis XV a eu beaucoup de maîtresses, on sait qu'il aimait beaucoup les femmes, eh bien, on a eu tendance, après son règne, et en particulier sous la Révolution, on cherchait à dire du mal de nos rois, à lui prêter des bâtards par dizaines. Oui, à l'époque, on ne parle pas d'enfants naturels, on parle de bâtards, c'est plutôt désobligeant. En réalité, Louis XV a eu 7 enfants naturels, 5 filles et 2 garçons. Il les présentait au baptême sous des noms fantaisistes ou leur trouvait des paires de complaisance. Bon, c'est peut-être pas bien joli, mais en attendant, il leur donnait pas son nom, mais il leur a toujours assuré une bonne éducation, une existence confortable. Ils s'en occupaient, ils s'en préoccupaient quand même. Et il ne va donner son nom qu'à un seul de ses enfants naturels, le fils que lui donne une certaine Anne Coupier. Pourquoi cette exception? Qui est cet enfant? Et d'abord, est-ce que vous connaissez Anne Coupier?
Non.
Oui, c'est ça qui est très curieux, c'est que c'est quand même une liaison qui va durer près de 5 ans. Alors, on connaît par cœur Madame du Barry, Madame de Pompadour, Morphise, les sœurs Mayinel, toutes ces dames, on les connaît, c'est des noms qui nous sont familiers, mais Anne Coupier, inconnue au bataillon. Alors, si l'on en croit Casanova, Anne Coupier est merveilleusement belle. Alors, est-ce que Casanova est digne de foi? Probablement pas, parce qu'il y a quand même pas mal de maîtresses de Louis XV que Casanova lui a présentées. Donc, il ne va pas dénigrer...
Ah, vous voulez dire que Casanova a fréquenté lui-même cette Anne?
Alors, il l'a connue, mais il présentait des femmes à... C'est lui qui présente Morphise à Louis XV. Enfin, tout ça est un petit peu dégueu. C'est une autre histoire.
Parce que le parc aux cerfs, c'était pas...
Oui, c'était vraiment... à l'heure du goûter, on n'évoque pas ce genre de choses, si vous voulez bien. En tout cas, quand on lit Casanova, il nous dit que chez Anne Coupier, tout est absolument merveilleux. Teint pâle, trait du visage parfait, yeux éclatants, dents régulières, jolie bouche, lèvres roses tendres. Mais en fait,
Il était maquignon
Mais Casanova était maquignon. Mais en réalité, la particularité essentielle d'Anne Coupier, c'est sa taille. Elle est très grande et c'est même comme ça à la cour qu'on va l'appeler la Grande. Tout le monde la surnomme comme ça. La comédienne Sophie Arnoux, qui est connue pour ses bons mots, nous précise « Chez cette personne extraordinaire, la nature avait pris plaisir à faire une grande exagération. Cette perfection était colossale. C'était au point qu'auprès d'elle ou à ses côtés, le roi lui-même, quoique fort bel homme, n'avait l'air que d'un écolier ou d'un demi-roi. » Donc on peut penser que Louis XV, qui aimait un peu les particularités chez les femmes, il a quand même couché avec presque toutes les 4 des 5 sœurs Mayinel et il s'ennuyait très vite dans ces choses-là. Eh bien, d'avoir une très grande femme, ça a dû lui plaire. Et en tout cas, elle devient sa maîtresse probablement vers 1760 et son fils naît 2 ans plus tard. Et quand elle est enceinte, il la comble de cadeaux et il lui promet de légitimer son enfant. Alors attention, il y met quand même des petites conditions. Non seulement la vérité de sa naissance ne doit être dite qu'en confession à un curé, et son parrain et sa marraine doivent être un pauvre ou un domestique. On va quand même pas mélanger les torchons. C'est quand même, tout ça, c'est sidérant, enfin pour nos regards contemporains. Donc cet enfant, né le 13 janvier 1762, il est baptisé sous le nom de Louis. Louis-Aimé, fils de Louis de Bourbon. Et oui, il porte le nom du roi et de cette demoiselle Anne Coupier de Romans qui bientôt sera titrée, par la grâce du roi, baronne de Meilly-Coulonges. Et oui, avoir un enfant du roi, quand même, ça vous place. Hein. Et alors, comme elle n'est pas du genre discret, cette jeune femme, ça va finir par se savoir. Hein. La rumeur court, non pas d'un enfant naturel supplémentaire, mais enfin d'un enfant que le roi aurait reconnu. Et Madame de Pompadour, qui est quand même très intriguée, prend son carrosse, elle apprend où est cachée la dite Anne Coupier avec le fruit de ses amours royales, et elle va regarder de loin, et elle voit en effet la jolie Anne Coupier, la grande, avec son nourrisson dans les bras. Et d'ailleurs, on pense que c'est Madame de Pompadour qui plus tard enverra des sbires pour récupérer les papiers, parce qu'elle le connaît son animal, elle le connaît son bonhomme. Elle sait que quand il est pris, quand il est ferré par une femme, il ferait tout pour elle, et que quand il s'enlace, c'est terminé. Et c'est très exactement ce qui va se passer. Et surtout que Anne Coupier, elle se prend elle pense que le royaume de France tout entier s'intéresse qu'à elle, et donc elle va devenir exigeante. Et en septembre 65, il envoie des archers qui viennent enlever l'enfant, qui va être élevé loin de sa mère, dans l'ignorance complète de sa naissance, jusqu'au jour où il rentrera au collège. Jamais plus Louis XV ne verra Anne Coupier. Et tant que Louis XV vécut, jamais plus Anne Coupier ne reverra son fils.
Mais c'est atroce.
Mais oui, c'est d'une grande cruauté. Hein. Et finalement, elle récupère son enfant à la mort de Louis XV en 1774 grâce à Louis XVI. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'un enfant naturel comme ça auquel le roi a donné son nom?
On lui met un masque de fer.
C'est à peu près ça. On le fait rentrer dans les ordres. Donc, il devient l'abbé de Signy et puis chanoine de Notre-Dame de Paris.
Donc, il n'a jamais eu de descendant.
Alors, lui, il n'a jamais eu de descendant, puisqu'il était donc abbé, et le malheureux, il est mort à 25 ans à Naples, soit de la tuberculose, soit de la petite vérole, donc il est enterré à Naples. Et ben, on ne sait pas exactement, si vous voulez, c'est là que commence la rumeur, c'est-à-dire, est-ce que cet homme-là, Louis-Aimé, est-ce qu'il fut un brave curé confié en dévotion, ou comme l'écrivent certains de ses contemporains, le portrait de son père pour la figure et pour les mœurs, est donc un abbé indolent, voluptueux, libertin. Eh ben, on n'en sait rien au juste, parce que c'est ça toute la puissance de la rumeur.
Il n'en savait rien non plus. Stéphane Bern ne connaissait pas l'existence d'Anne Coupier. Est-ce que vous serez meilleur dans le quiz, Stéphane, qui arrive? J'espère que vous aurez plus de bonnes réponses dans le quiz qui va vous opposer à Clémentine dans un instant.
Je ne réponds pas à une telle provocation.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
La plupart des rumeurs sont infondées, comme celle qui prétend que Stéphane Bern serait nul en musique.
Moi j'aimais bien les To Be Free.
Ou encore celle qui dit qu'il n'est pas un grand gourmet.
Le cake, vous voyez, c'est bon.
À la lumière de cette démonstration, qui peut encore croire à la rumeur selon laquelle Stéphane Bern serait nul en quiz? Personne. Jouons à Bern To Be Alive, notre petit quiz qui oppose chaque jour Stéphane à Clémentine. Mmh. Et la première question va toujours à Stéphane Bern.
Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Souvenons-nous. C'est vous qui l'avez demandé.
Non.
Souvenons-nous de Saddam Hussein. Qu'est-ce que vous regardez derrière moi, Stéphane? Vous regardez dans mon dos.
Non, ça m'inquiète, il y a des choses qui bougent dans votre dos.
Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui bouge dans mon dos? Mais Stéphane, vous avez bu?
Non, je viens de comprendre que c'est le plexi qui... Quand vous remuez beaucoup,
les effets secondaires du
corona. Il faut expliquer, nos auditeurs, oui. Nous avons
nous sommes séparés
des
par des vitres en
plexiglas
plexi.
Pour les raisons
et
de distanciation sociale.
Et comme vous bougez beaucoup sur votre table,
et que comme Stéphane a bu un peu trop, il voit des reflets.
Le plexi bouge, et donc j'ai l'impression que ça bouge, que vous bougez.
Vraiment, j'ai eu peur dans vos yeux, parce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait eu un monstre dans mon dos, et j'ai vu mon Stéphanou tout perdu. Stéphane, souvenons-nous de Saddam Hussein. Oui. L'ancien dirigeant irakien était parfois d'humeur taquine. Il aimait bien cuisiner pour ses invités des plats volontairement chargés en tabasco pour leur faire croire qu'il les avait empoisonnés. Vrai ou faux?
Ça pourrait être vrai, oui.
Vous avez gagné!
Et c'est vrai. Sur son bateau, il aimait partir à l'improviste avec ses gardes du corps, sa secrétaire, ses principaux généraux sur le fleuve du Tigre avec ses invités. Une fois, il a même préparé lui-même les keftas, un plat à base de boulettes de viande, et comme on lui avait offert quelques jours auparavant du tabasco et qu'il n'aimait pas ça, il a vidé la bouteille de tabasco dans la viande. Tout le monde était obligé de dire qu'ils avaient adoré la recette. Saddam Hussein a bien rigolé, et tout le monde aussi, il faut dire qu'ils n'avaient pas trop le choix, hein, de rigoler ou pas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. En 1906, aux États-Unis, Joe Munch a été reconnu coupable d'ivresse sur la voie publique. Il a été condamné à chanter 100 fois l'hymne américain. C'est la dernière fois que ce genre de peine a été choisie par un juge. Vrai ou faux?
Oh, c'est très amusant. Comme le dit Stéphane, de temps en temps, si ça n'est pas vrai, ça mériterait de l'être. Je répondrais oui, 100 fois l'hymne américain.
J'aime votre enthousiasme.
Vous avez perdu. perdu.
Il n'est pas toujours productif, mais j'aime votre enthousiasme. Non, c'est faux.
Maintenant, ils ont trouvé un truc. Vous avez vu à la régie, ils ont le début. C'est comme si vous aviez gagné.
On a l'impression,
et
on s'attend.
Pouf, ça retombe.
Ils sont malins, hein. Ah, c'est des petits filous, hein.
Mais je pense qu'il y a. Il y a un cerveau derrière
c'est
tout ça.
C'est dégueulasse, oui.
Il y a un cerveau. S'il y avait un cerveau dans cette équipe, ça se saurait. Ouais. Faux, faux. Mais alors, en revanche, il a été condamné, c'est pour ça qu'on en parle de ce Joe Mouche. Il a été condamné à la prison pour une durée de 1 minute seulement. C'est la peine la plus courte qui a été donnée de toute l'histoire des États-Unis. Je ne sais pas qui était ce juge, mais
à peine
1 minute.
Le temps d'entrer.
Voilà, le temps d'être entre les huissiers, c'était fini. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Le 5 juin 1806, Napoléon nomma son frère Louis roi de Hollande. Il a été surnommé le roi des lapins. Vrai ou faux ?
Le roi des lapins. C'est vrai qu'il n'était pas très fidèle à la reine Hortense, qui était la fille de Joséphine de Beauharnais.
Il a eu beaucoup de maîtresses, Louis.
Il a déjà eu un fils avec Hortense. Ils ont eu Napoléon III.
Oui, bon, bah d'accord. Okay.
Et elle était la maîtresse après de...
Bah oui, pour avoir Morny. Mais à mon avis, certainement pas une allusion à ses capacités de.
Est-ce que vous pensez que c'était une allusion aux Pays-Bas ?
Peut-être aux Pays-Bas.
Tout de suite penser à ça. Hein. Tout de suite penser au lapin.
Alors je me demande si c'est pas une façon d'ironiser sur le pays dont il devenait le roi.
Bon, mais je dirais oui.
Mais enfin, s'il y a des lapins en Hollande, il y a plutôt de la mimolette.
J'aurais dit le roi des tulipes, le roi des mimolettes, le roi des dames.
Oui, alors tout ça nous emmène très loin. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Que le roi de Hollande a été surnommé le roi des lapins.
Ben c'est faux.
Vous avez perdu.
Il tenait le bon bout, il tenait la corde jusqu'au bout au dernier moment. Hop, il change sa réponse.
Mais...
Erreur, Stéphane.
Oui.
Non, c'est vrai, on l'appelait bien le roi des lapins, mais pourquoi ? Non pas parce qu'il avait un goût pour la fornication particulière. La raison, une maladresse. Il voulait dire, dans un discours, « Je suis le roi de Hollande », il fallait dire évidemment « Koning van Holland », c'est ce que j'aurais dit personnellement. Mmh. Mais il a dit « Koning van Holland », qui signifiait « Je suis le roi des lapins ».
Ah, c'est drôle.
Très amusant.
Oui. Mais il a aussi été surnommé « Le Bon », car il avait beaucoup de compassion. Il a été roi de Hollande de 1806 à 1810. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. À bord du Titanic, il y avait 3500 sacs de courrier. Les 5 commis des postes ont eu le droit en priorité à un canot de sauvetage. Ils ont pu prendre avec eux 9 gros sacs de lettres. Vrai ou faux ?
Ils ont préféré sauver les lettres aux passagers. Ça vous paraît crédible, ça ?
Il y a peut-être des choses importantes.
Moi, je pense que dans la précipitation, et comme les passagers étaient persuadés que c'était un exercice de sauvetage et non pas un véritable naufrage, qu'il y ait eu des sacs de courrier à bord d'un canot de sauvetage et que de façon totalement absurde, ils aient été là et occupé la place d'éventuels passagers, c'est possible. Mais que délibérément, on ait voulu sauver des sacs de courrier à bord d'un canot de sauvetage sur le Titanic, je réponds non, c'est faux.
Vous avez...
Vous avez
Bravo.
Gagné. Pourquoi ? C'est faux. C'est une très belle histoire qui nous permet de positiver, puisqu'effectivement, ils ont tenté de sauver un maximum de lettres, hein, les commis des postes, car la salle de courrier a été une des premières à être inondée. Et là, ils se sont tous noyés. Voilà, c'était donc la fin de ce quiz. Égalité, ce n'est pas la fin du quiz.
Non.
Une question
vous voyez, il y a toujours des rebondissements.
Va vous départager. Alors attention, c'est la question de rapidité. Vous attendez bien que j'ai donné toutes les propositions. John Shepherd Barron, né en 1925, est un inventeur britannique. Il a notamment dirigé l'équipe qui a installé le premier distributeur automatique de billets et on lui doit aussi l'invention du code de carte bancaire. Mais pourquoi il y a 4 chiffres dans ce code ? 3 propositions. Parce qu'il avait 4 enfants, du coup il a mis 4 chiffres. Parce que sa femme n'arrivait pas à se souvenir d'un nombre de plus de 4 chiffres. Ou parce que, hors royalties, son invention lui a été payée 9 999 livres, un nombre à 4 chiffres.
Moi, je dirais 2.
Parce que sa femme n'arrivait pas...
Je connais bien votre misogynie, Stéphane.
Mais non,
sa femme n'arrivait pas à mémoriser un nombre de plus de 4 chiffres.
Moi, je dirais parce qu'il avait 4 enfants. Je trouve que c'est pas mal.
J'annonce à la France que le gagnant du quiz aujourd'hui n'est autre que Stéphane Bern qui prend sa revanche. Oui, c'était bien vu, comme quoi la misogynie paye.
C'est pas
Caroline,
vrai.
Oh, sa chapeau. Femme, n'arrivait pas à se souvenir d'un nombre de plus de 4 chiffres. Au départ, le système proposé en contenait 6. Finalement, 4 a été plus raisonnable. Voilà pourquoi on doit mémoriser 4 chiffres pour notre carte bancaire. Une question qui n'est pas tout à fait
Bande
juste,
de macho, non,
puisqu'il mais... existe certains pays où il y a plus de... Le code n'est pas 4 chiffres, mais 6 chiffres, effectivement.
Ah oui,
comme ça devait être, par exemple, un pays que je connais un petit peu, la Suisse, n'est-ce pas ?
C'est 6 chiffres en Suisse.
C'est 6 chiffres, en tout cas. Oh, bah. La carte de crédit de ma mère, qu'elle me prête parfois, c'est 6 chiffres.
Puis il y a des Victor... chiffres secrets. Hein.
Victoire.
Des coffres à chiffres.
Je vous en prie, Stéphane.
Oui, bien
non,
sûr.
Je m'égare avec cette histoire. Digression personnelle inutile. Bravo, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous réconcilie avec l'histoire et vous permet de rentrer chez vous gai comme un pinson et érudit comme Stéphane Bern, mon illustre acolyte.
On n'en fait pas trop, merci beaucoup Mathieu.
J'essaye un peu.
Chaque après-midi, c'est effectivement dans la joie et dans la bonne humeur que nous évoquons trois personnages de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, oh non, c'est pas vrai, ils ont été victimes de folles rumeurs.
Et oui, il semblerait qu'aucune star n'y échappe. Par exemple, une rumeur ridicule circule actuellement selon laquelle Stéphane Bern répondrait parfois à des mails en pleine émission.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour Serge. Raphaël est un immense peintre, il incarne aussi le peintre de la résistance, de la...
Raphaël, le grand peintre de la résistance, l'ami de Jean Moulin, hein, on peut le dire, ils étaient cul et chemise.
La Renaissance, j'avais corrigé.
Lâchez votre portable. Stéphane, consomme.
Mais non, jamais Mathieu, jamais. Eux aussi ont été victimes de rumeurs infondées. Alors après, Georges Pompidou qui a été blessé par cette rumeur, je vous parle maintenant d'Henry Ford, le géant de l'automobile que certains auraient bien vu à la Maison Blanche, mais sans jamais le consulter ni lui demander son avis. Quant à vous, Mathieu, vous nous ferez danser.
Oui, sur Sheila. C'est votre jeunesse, hein, Spacer Sheila, qui elle aussi a dû affronter une terrible rumeur, Stéphane. Certains ont dit en effet...
C'est faux comme ça, a mal vieilli.
Non, ça c'est pas une rumeur. Non, certains ont affirmé qu'elle était un homme. J'ai contacté Sheila, je peux vous dire que cette rumeur l'a vraiment étonnée.
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
On en reparlera ensemble, Sheila.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs. Et oui, ça c'est pas une rumeur. David Cassel-Lopez qui nous raconte les origines. Alors les origines de quoi?
Les opérations de changement de sexe dont on verra qu'on ne doit pas les appeler comme ça.
On est de plus en plus dans le quotidien avec David.
Exactement.
Olivier Pouls, vous nous parlez vous de la paella, rien à voir?
Rien à voir. Alors ni avec le changement de sexe ni avec les rumeurs. C'est tout simplement un bon plat à manger, tiens.
L'expression sans crier gare. Alors voilà une expression qu'on emploie vraiment au quotidien et on n'a vraiment aucune idée d'où elle vient. Mais vous, Stéphane, vous êtes là pour nous l'expliquer.
Je sais, absolument. Oui, bien sûr, ça veut dire que sans avoir prévenu.
Oui, ça, je sais ce que ça veut dire, mais d'où ça vient, c'est tout l'enjeu.
C'est tout l'enjeu de ma chronique.
Le fin
mais si je vous le dis maintenant, ça sert à rien d'attendre la fin de l'émission.
C'est vrai que ça n'aurait aucun intérêt.
Voilà.
Et tout de suite,
on a des choses à faire là maintenant.
On a deux, trois trucs à faire, notamment partir aux États-Unis, où certains auraient bien aimé en 1924 voir le célèbre Henry Ford se présenter à l'élection présidentielle. Encore aurait-il fallu lui demander son avis.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Oui Mathieu, nous partons pour les États-Unis d'Amérique dans les années 20. La grande époque de la prohibition, du jazz, du swing et du cinéma, mais aussi de l'urbanisme galopant et de la consommation de masse. Et s'il y a bien une industrie emblématique dans ces années-là, c'est évidemment la voiture. Jusqu'au début des années 1910, l'automobile est un caprice que pas un seul ménage de la classe moyenne ne peut s'offrir. Mais durant la période de l'après-guerre, les choses ont bien changé. Et les Roaring Twenties, les années rugissantes, portent bien leur nom avec ces bruits de moteur que l'on entend de plus en plus souvent. Cette mutation profonde, on la doit largement à un homme. Henry Ford, le grand capitaine d'industrie. Un homme dont tout le monde pense, en effet, qu'il sera candidat à la présidentielle de 1924. Une rumeur qui se répand comme une traînée de poudre. Et pour bien comprendre pourquoi, il faut mesurer la place à part qu'Henry Ford occupe dans l'Amérique de l'après-guerre. Plus qu'un chef d'entreprise, il est une légende. Riche, très riche évidemment, mais célèbre aussi, rich and famous, tout le pays connaît son nom. Jusque dans les coins les plus reculés du pays. Et cette notoriété incroyable, Ford la doit à sa réussite industrielle d'abord. Henry Ford, c'est l'homme qui a transformé l'industrie automobile et qui l'a surtout écrasé grâce à un modèle légendaire, la Ford T. En 1920, la moitié des ménages américains qui possèdent une voiture roulent en Ford T. L'industriel a réussi à transformer un rêve inaccessible en produit de la vie courante avec un modèle qui représente entre 4 à 6 mois seulement du salaire d'un enseignant. Ford n'y est pas arrivé par hasard. En inventant le Fordisme, Ford a développé la production à la chaîne où tout est fait pour réduire les coûts en standardisant notamment les voitures. Ford avait l'habitude de dire que la Ford T, on pouvait la choisir de n'importe quelle couleur tant que c'était noir. Permettre à toute l'Amérique ou presque d'avoir une voiture fait déjà beaucoup pour asseoir une belle image. Mais Henry Ford a un autre atout. En quelques années, il s'est forgé une réputation d'industriel humaniste parce qu'il paye extrêmement bien ses salariés. À peu près deux fois ce que proposent ses concurrents. Ford en a même fait un slogan en 1914 quand il a multiplié par deux le salaire journalier de ses ouvriers, passé de 2,34 $ à 5 $. Ce $5 a day, surtout prévu pour fidéliser ses employés, a énormément fait pour sa réputation. Dans les années 20, Ford a l'image d'un homme proche du peuple. Forcément, cela donne des idées à une partie des électeurs qui voient en lui l'homme providentiel, un homme qui pourrait faire un bien fou au pays une fois arrivé à la Maison-Blanche. Et voilà comment la rumeur d'une candidature de Ford en 1924 se met à enfler à partir de rien, enfin disons de presque rien, parce que Ford a tout de même un petit passé politique. En 1916, il avait déjà réussi l'exploit d'être désigné candidat républicain dans le Michigan, son état natal, sans jamais s'être inscrit. Mais surtout, Henry Ford a bel et bien été candidat pour les sénatoriales de 1918, toujours dans le Michigan, mais cette fois pour le camp démocrate. Il a perdu d'un souffle quelques milliers de voix à peine, mais cela suffit à donner un peu de crédibilité à la rumeur qui enfle de plus en plus entre 1922 et 1923. Alors que Ford n'a jamais dit un mot sur cette candidature, on commence à tester son nom dans les enquêtes d'opinion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait des étincelles. Durant l'été, le magazine Collier publie une enquête qui lui octroie 34% des voix, alors que le président sortant, William Harding, plafonne à 20%. Quelques semaines plus tard, 2000 journaux locaux font une enquête auprès de 680 000 lecteurs de l'Amérique rurale. Cette fois, Henry Ford frôle les 42% d'intention de vote. Évidemment, tout cela donne du corps à la rumeur, d'autant que Ford, qui est très loin de détester qu'on parle de lui, a une attitude un peu ambiguë. Il ne dit pas qu'il sera président, mais il ne dément pas, il ne dit pas le contraire non plus. Ce silence ouvre la voie à toute une série d'initiatives. Partout dans le pays, on voit apparaître une foule de clubs et de comités qui commencent à préparer une candidature qui n'existe toujours pas. Et comme personne ne sait si Ford penche plutôt du côté démocrate ou du côté républicain, certains l'imaginent déjà mener sa campagne à la tête d'un troisième parti, créé ex nihilo pour l'occasion. Avec de tels soutiens, on ne peut s'empêcher de penser que Henry Ford a peut-être été tenté d'y aller pour de bon. Les spécialistes de l'époque s'accordent généralement pour dire que, même s'il a sans doute été flatté, Ford n'a jamais sérieusement désiré être candidat à la Maison Blanche. Et puis, on a parlé de ses atouts, mais il avait tout de même quelques sérieux handicaps, et non des moindres, à commencer par le soutien un peu gênant quand même du Ku Klux Klan. Et
ah
puis,
oui, c'est un peu gênant.
Son antisémitisme, quand même d'une violence à peine croyable, dont Ford a fait montre au fil des années, à une époque où ce genre de discours semblait tristement banal, et le nazisme, je le rappelle, était assez balbutiement. Ford s'illustre notamment, après la Première Guerre mondiale, par des écrits antisémites d'une extrême violence dans le Dearborn Independent, journal qu'il a acheté. Il faut attendre quelques années, en 1927, pour que Ford, soucieux de son image publique, mette un terme à ses saillies antisémites. En tout cas, publiquement, Mathieu. La question des mœurs aurait pu être aussi une sérieuse barrière pour une partie de l'opinion. Henry Ford était un patron paternaliste qui interdisait, par exemple, à ses ouvriers de fumer, de boire, de jouer ou de parier. Au sein de l'usine, cela peut évidemment se comprendre. Mais il leur interdisait aussi, une fois rentrés chez eux, dans la sphère privée.
Heureusement qu'on n'a pas cette clause-là dans notre contrat, Stéphane. Surtout
oui,
pour
sinon
vous, ça
vous seriez très, très mal, vous.
Surtout vous, surtout vous.
Alors non, Ford n'a sans doute jamais eu l'intention de se lancer dans la course. Et il finit par apporter son soutien au candidat républicain Calvin Coolidge, qui, lui, sera finalement élu. Mais les années qui suivent, son étoile pâlit sérieusement. Ford est victime de la concurrence de constructeurs comme General Motors et sa célèbre Chevrolet ou Plymouth qui vont mettre un sérieux coup de vieux à la Ford T. Sa vendetta acharnée contre les syndicats ouvriers, de son côté, finit par abîmer sa réputation de défenseur des petites gens. Quoi qu'il en soit, il va bien finir par y avoir un jour un Ford à la Maison Blanche. Oui.
Son cousin.
Oui, non. En 1974, l'Amérique va élire Gerald Ford. Mais c'est pas Henry.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Henry Ford, nous sommes avec le chercheur et spécialiste de la société américaine, Jean-Éric Brana. Bonjour Jean-Éric.
Bonjour.
La rumeur a souvent l'intention de nuire. Mais là, avec Henry Ford, victime d'une rumeur qui annonce sa candidature à la Maison-Blanche, on voit pas bien l'intention de nuire. Elle pourrait venir de qui? D'un concurrent? D'un industriel qui voulait le déstabiliser? Et pourquoi lui finalement?
Ah non, en réalité, ces rumeurs, on les a tout le temps aux États-Unis au moment des présidentielles, parce qu'on confond aux États-Unis la notoriété avec la possibilité de se faire élire. C'est quand même très différent. On a eu, nous, dans l'époque très récente, des candidatures comme ça qui ont été avancées par la rumeur également. Oprah Winfrey, tout le monde a entendu dire qu'elle serait élue très facilement si jamais elle se présentait. Alors là, on n'en est pas vraiment sûr. Elle déjà en doute beaucoup, et c'est peut-être pour ça que prudemment elle n'a jamais essayé. Kanye West aussi a beaucoup été avancé par les médias, lui a fini par y croire. Donc il s'est lancé.
Et il a compris que
y a quand même un gap très fort entre la notoriété et la réalisation politique sur place. La notoriété ne suffit pas à ce que les gens vous suivent et finalement croient en vous pour aller à la présidence.
On parle de notoriété. Quel genre d'homme était Henry Ford au moment où cette rumeur apparaît? Pourquoi un homme autoritaire avec ses ouvriers qui leur demande, comme disait Stéphane, de ne pas boire d'alcool à la maison, pourquoi il est si populaire? C'est juste parce qu'il paye bien?
C'est un petit peu comme avec Donald Trump en réalité. Ça dépend si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et certains nous parlent beaucoup d'économie en parlant de Trump, en disant mais vous avez vu à quel, ce qu'il a rendu à l'Amérique. Beaucoup de gens aujourd'hui sont quand même, non pas dans la prospérité, mais repartent dans une certaine possibilité de pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc c'est grâce à lui, le chômage a baissé. Et on entend ce discours, et c'est exactement le discours qu'il y avait avec Henry Ford. Et Stéphane l'a très bien expliqué. Le salaire minimum était à ce moment-là à 2,34 et tout d'un coup, il va passer à 5 dollars. On retient que ça. Hein. Ça, c'est l'image d'Épinal, puisque c'est un petit peu plus compliqué. En réalité, il était resté à 2,34. Mais il y avait des primes qui l'amenaient à 5 dollars à condition de remplir toutes les conditions. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas fumer, pas boire, pas avoir de maîtresse, être marié.
Et il allait vérifier si on avait des maîtresses.
Et oui, vérifier tout ça.
Vous seriez obligé de rembourser votre salaire.
Mais je vous en prie, Stéphane. Quelles sont ces accusations sorties nulle part? Non, pas du tout.
Écoutez, alors je vous laisse avec, bien sûr, vos problèmes personnels qui ont l'air d'être très lourd, mais
selon Stéphane,
c'est comme ça qu'on lance des rumeurs. Vous voyez, c'est assez facile. Mais en réalité, Henry Ford avait même mis au point un système de contrôle avec des inspecteurs. Il y avait près d'une cinquantaine d'inspecteurs qui venaient toquer à votre porte, vérifier, interroger la femme en disant alors votre mari hier soir, il est allé au café comme d'habitude. Il valait mieux répondre non en disant il n'y va jamais parce que sinon il perdait son emploi.
C'est fou. Mais Ford est le visage de l'Américain qui a réussi. C'est le petit machiniste qui devient le grand patron. C'est au fond ça le rêve américain. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu une sorte de héros pour le peuple américain.
Bien sûr, surtout à cette époque-là. Et vous avez un petit peu brossé le portrait des années 20. On est dans la seconde révolution industrielle où tout d'un coup, les biens de consommation prennent une importance terrible. C'est les appareils électroménagers, c'est la voiture, c'est le cinéma qui est à son essor. La prospérité s'accompagne, enfin la prospérité relative, hein, parce qu'il y aura quand même une grande crise économique déjà à cette époque-là qui annonce la suivante, mais ça annonce quand même un certain art de vivre que les gens poursuivent, ont envie d'atteindre, et Ford amène ça sur un plateau d'argent, puisqu'il va faire baisser le prix de la voiture de façon drastique, et donc permettre à beaucoup de se payer cette voiture, avec des salaires effectivement qui, quand on a rempli toutes les conditions, peuvent permettre, si on est un ouvrier de chez Ford, d'atteindre 18 000 dollars à cette époque-là, alors que le salaire d'un ouvrier sur la même époque est juste de la moitié. Donc effectivement, c'est quelque chose d'important, et Ford a soi sa notoriété et sa popularité, c'est vrai, là-dessus.
On évoquait son antisémitisme tout à l'heure, assumé pendant très longtemps, qui aurait pu lui porter préjudice, mais ça c'est avec notre regard d'aujourd'hui, parce que son antisémitisme dans les années 20, au contraire, aurait pu motiver des Américains à le soutenir.
Oui, bien sûr. Et puis vous avez parlé aussi du Ku Klux Klan qu'on va associer, puisque ça va avec. Et à ce moment-là, le Ku Klux Klan défile dans les rues à Washington. On a cette grande manifestation avec des milliers de membres de gens drapés là de la tête aux pieds avec leur chapeau pointu sur la tête. Et c'est quand même assez incroyable de penser que ça a existé aux États-Unis.
On a bien vu un homme à cornes entrer. Ah
oui, on a vu un homme à cornes. C'est vrai, mais voyez, on en parlera longtemps dans l'histoire de cet homme à cornes en disant on est dans une autre époque. Mais il n'y avait pas les chapeaux pointus cette fois. si vous l'avez remarqué aussi.
Oui, oui. Et, il y avait le drapeau sudiste.
Il y avait le drapeau sudiste, mais il n'était pas des milliers à manifester dans les rues de Washington sous les applaudissements du reste de la population. C'est quand même une époque quand même très dure dans laquelle effectivement l'antisémitisme, le rejet des immigrants est extrêmement fort, même si Ford a joué aussi dessus, puisqu'il a embauché, il fait partie de ceux qui sont les premiers à avoir embauché énormément d'immigrants. Il s'agissait d'affaiblir à ce moment-là les syndicats en mettant en concurrence avec des ouvriers qui acceptaient absolument toutes les conditions, qui souvent ne parlaient même pas la langue anglaise, donc étaient prêts à accepter n'importe quoi.
Un dernier mot quand même, c'est-à-dire au fond, est-ce que cette rumeur a servi Henry Ford ou au contraire ça a accéléré sa chute, j'allais dire l'image qu'il a eue par la suite?
Grand mystère, dans son autobiographie on n'a rien là-dessus. Ce qu'on sait c'est qu'il avait l'air de s'en moquer royalement. Il a dit lui-même tout ce qu'un homme doit faire c'est de ne jamais être président, même si il a été président de Ford quand même, mais pas d'aller dans la sphère publique. Et comme vous l'avez signalé, il y est quand même allé. Il a essayé.
Il est allé un peu, c'est ça qui est bizarre.
Et il a essuyé un échec. C'est quand même important.
Enfin, je rappelle cette citation de Clémenceau, il y a deux choses dont un homme peut se passer, la prostate et la présidence de la République. Merci Jean-Éric Brunat. Je signale votre dernier ouvrage d'un homme qui deviendra président des États-Unis dans quelques jours. Et lui, il s'est présenté à l'élection, c'est pas une rumeur. Hein. Et il a vraiment gagné, contrairement à ce que pensent certains. C'est Joe Biden à qui vous consacrez une biographie qui est publiée aux éditions du Nouveau Monde. Merci d'avoir été
avec
nous.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre évoque ces personnages de l'histoire qui ont été victimes de folles rumeurs. Après Georges Pompidou et Henry Ford, Mathieu, vous nous brossez le portrait aujourd'hui. Alors, à 100% vrai, puisqu'il s'agit d'invalider des rumeurs.
Tout à fait.
Hein. C'est pas le moment d'en rajouter, vous voyez. D'une chanteuse dont certains se sont demandé s'il n'était pas un chanteur.
Et oui, Stéphane, c'est l'invraisemblable rumeur qui a couru sur Sheila.
Ouh, les copains, je ne vous oublierai jamais.
Sheila, dont la tessiture, pourtant assez éloignée de celle de Barry White, aurait dû la prémunir de suppositions aussi grotesques. Mais non, c'est le propre de la rumeur. Plus c'est gros, plus ça passe. Que n'a-t-on pas entendu? Pour vous dire dernièrement, on m'a même assuré droit dans les yeux que Stéphane Bern, mon Stéphane Bern, qui sait à peine comment on fait les enfants, faisait partie des organisateurs de la fameuse fête libertine à Joinville-le-Pont, où certains l'auraient même entendu s'écrier
« Je sais pas faire la maillot, mais j'envoie la sauce ».
Franchement, mais où va la France? Ça, c'est les réseaux sociaux, Stéphane. Hein. Mais l'histoire que je vous raconte aujourd'hui prouve que même avant Twitter, déjà, la rumeur était un poison sournois. Comment une rumeur aussi ridicule que celle prétendant que Sheila, ravissante jeune fille combinant jupe écossaise et couette en chou-fleur, serait en fait un homme, a-t-elle pu trouver un quelconque écho chez qui que ce soit? C'est le mystère que nous allons tenter de démêler cet après-midi. Déjà dans ce studio, tout le monde connaît Sheila, Stéphane parce qu'il fantasmait sur elle, Pouls parce que son père fantasmait sur elle, David parce que son arrière-arrière-arrière-grand-père, Thiago Albino Agostino Gilberto Kstelops, fantasmait sur elle. Combien de paires de Berluti Stéphane aura-t-il usé sur les dance floors des caves du roi à Saint-Croix en guinchant sur Spacer? Beaucoup. De toute façon, peu importe, Berluti vous les envoie gratuitement. Échange marchandises, comme on dit dans nos métiers.
Non mais redites-le une troisième fois, peut-être ça va marcher.
Sheila, des rois mages en Galilée au sommet du disco, c'est 60 ans de carrière, 85 millions d'albums vendus et une histoire qui commence pourtant de la manière la moins glamour qui soit, à savoir le 16 août 45 à Créteil. Sheila, de son vrai nom Gilbert Pichon... Non, je déconne. Sheila, de son vrai nom Annie Chancel...
On est là pour
c'est pour voir si vous suivez. Oui. Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, vient au monde. Avec des bonbons, diront les conspirationnistes. En fait, c'est juste parce que ses parents André et Micheline sont marchands de confiserie. La petite Annie est très artiste. Elle aime la danse, le cirque et surtout chanter. Elle chante tellement qu'on la surnomme la radio. À l'adolescence, elle intègre le groupe de rock les Guitar Brothers, avec qui elle se fait repérer par Claude Carrère, alors jeune producteur qui lui fait enregistrer son premier titre, Avec toi, titre qui n'a pas du tout vieilli.
Je voudrais me marier dans un joli
coin. Ride. Avant de se marier, Annie signe un contrat d'exclusivité avec Carrère pour 10 ans. Le pseudonyme Sheila est alors choisi, sa carrière est lancée. Elle n'est même pas majeure que son premier gros succès, L'école est finie, en 63, s'écoule à 1,5 million d'exemplaires. Sheila devient l'idole des jeunes et le symbole des années yéyé. Hélas, Stéphane le sait. Eh oui, tout succès a une phase B. Tout commence le 10 avril 64. Sheila est en concert à Roanne, charmante commune de la Loire, où en tenant très haut votre portable, vous devez pouvoir réussir à choper la 3G. Et un journaliste de France Dimanche est sur place pour l'interviewer. Il s'appelle Gérard Devilliers. Gérard l'interroge sur son état de santé, car elle s'est évanouie durant le concert. Sheila est naïve, Sheila a confiance, Sheila a 18 ans, elle s'ouvre comme une moule de bouchot. Épuisée et souffrant d'anémie, elle révèle alors au journaliste qu'elle se soigne avec un traitement composé d'hormones mâles, et qui, lui dit-elle, risque de transformer sa voix en la rendant plus grave. Oh, la belle prise, se dit Gégé le journaliste, qui se concerte alors avec le manager de Sheila, Claude Carrère, les deux étant de mèche pour faire à Sheila le maximum de couves et à eux le maximum de blé. Ce qu'on appelait alors pas encore à l'époque un brainstorming intense démarre. Alors, les cervelles de Gégé et Claude turbinent à plein gaz. Naturellement, la décision dont accouchera ce brainstorm sera la bonne, titrée en pleine page de France Dimanche, « Sheila risque de devenir un homme ». Scoop France Dimanche, Sheila risque de devenir un homme. Il sera bientôt impossible de la distinguer de Demis Rousseau. Qui n'existe pas encore en tant qu'artiste puisque nous sommes en 64, mais c'est pas grave, j'avais envie de la faire. Première une, premier titre.
Il y avait du poil. Hein,
mais pourquoi, un peu plus. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Quelques jours plus tard, après avoir eu écho des difficultés de la chanteuse à avoir un enfant, nouvelle une, nouveau titre, toujours avec l'accord du producteur. Cette fois, on ne prend plus de pincettes. Pourquoi s'embarrasser du conditionnel? Sheila est un homme. Sheila, elle, est traumatisée. Elle passe des journées entières enfermée chez ses parents à pleurer. Elle raconte ses longues semaines coupées du monde. Ses propres parents n'osent plus sortir et font ce qu'ils peuvent, ma foi, pour la réconforter, lui offrant des petits cadeaux, notamment une tondeuse à barbe Wilkinson.
Non !
Sheila ne l'utilise évidemment pas puisqu'elle n'a pas de barbe et que cette information est fausse. Vous voyez comme c'est facile de faire partir une rumeur. Toujours rester sur le qui-vive. Sheila, en pleurs, va voir son producteur qui, lui, ne voit pas où est le mal. C'est pas grave tant qu'on parle de toi, c'est bon cocotte. C'est moyen bon, expliquera des années plus tard Sheila sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, racontant que l'affaire avait pris des proportions invraisemblables. On a quand même dit que j'avais une poche à eau de mer sous la peau du ventre pour faire croire que j'étais enceinte. Certains ont même prétendu que j'avais acheté mon fils. Et oui, c'est bien connu, l'injection de liquide iodé dans l'abdomen et l'achat d'enfants sur le dark web, c'était très répandu dans les années 60, hyper plausible. Pourtant, une fois de plus, la rumeur prend. Sheila en vient même à filmer son accouchement pour pouvoir prouver plus tard à son fils qu'elle est réellement une femme. Alors, je suis pas pédopsychiatre, hein, j'entends la détresse de Sheila en tant que mère, mais d'instinct, je ne suis pas sûr qu'un enfant déjà traumatisé par les ragots d'une cour de récré soit apaisé par la vision de sa propre tête sortant de l'utérus de sa mère. Heureusement, Sheila saura surmonter ce traumatisme de jeunesse pour enchaîner les tubes. Elle restera toujours une icône. Nous surprenons avec un passo-doble endiablé dans Danse avec les stars, caché dans un lapin cosmonaute dans Mask Singer, ou encore dans la tournée achetant des têtes de bois, partageant la scène avec d'autres artistes conservés dans l'ambre depuis des siècles, tel le moustique dans Jurassic Park. À 75 ans, Sheila est toujours là, même si elle sait que la folle rumeur pourrait lui survivre, comme elle l'a déclaré. Demain je meurs, il y en aura toujours un qui dira « Eh, moi j'ai bien connu le docteur qui l'a opéré, j'en suis sûr. » Et justement, Sheila, nous avons retrouvé ce docteur. Non, je déconne.
Merci Mathieu, c'était une bien belle rumeur que vous avez racontée là. Merci vrai. Beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour victimes de folles rumeurs.
Au revoir, personnages du jour victimes de folles rumeurs.
Oui, pour retrouver Mathieu, ceux qui nous permettent de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui en remontant aux origines. Et avec eux, jamais de rumeurs, que des faits. Vérifier, survérifier, authentifier.
En même temps, qui irait lancer une rumeur sur la paella? Hein, Olivier Pouls, franchement, il faudrait être un peu vicieux.
Oui, c'est vrai, et je peux vous confirmer qu'elle est bel et bien espagnole.
Ce n'est pas une rumeur, Stéphane, vous nous donnerez le mot de la fin. Chaque jour, l'explication, l'origine d'une expression qu'on utilise tous les jours. Aujourd'hui, l'expression « sans crier gare ».
Oui, on ne crie pas « gare ».
Et ça a à voir avec la gare SNCF ou pas du tout?
Non, c'est bien plus ancien.
C'est plus ancien.
Il n'y avait pas encore de rail.
Et tout de suite, on part aux origines des opérations de changement de sexe.
Oui, vous savez, moi, quand j'étais petit, une de mes plus grosses terreurs, c'était d'être obligé d'aller faire la guerre. Parce que mes parents, ils m'avaient dit, s'il y a une guerre et que tu as plus de 18 ans, eh bien, tu devras aller te battre comme papy. Et moi, j'avais dit, ok, mais ma sœur, du coup, m'avait dit, ah bah non. Je dis, mais comment ça, bah non? Juste parce que c'est une fille, elle a le droit de rester en vie, et moi non. Et j'avais trouvé ça, mais terriblement injuste, et ça m'avait donné un peu envie d'être une fille, rien que pour ça, pour pouvoir ne pas aller faire la guerre. Alors, je ne savais pas, à l'époque, que c'était possible, mais ça l'est, et chaque année, il y a plein de gens dans le monde. Je dis plein et je suis pas peu précis parce que j'ai passé une demi-heure à chercher exactement combien de gens faisaient des opérations de changement de sexe sur la Terre. J'ai pas trouvé, donc j'ai arrêté. Donc c'est plein de gens, voilà, qui changent de sexe chaque année. Et là, il faut que j'explique un peu. J'ai dit changement de sexe, mais j'aurais pas dû, parce que le vrai terme juste pour parler de ça, c'est opération de réassignation de sexe. Pourquoi réassignation ? Eh bien parce que l'idée, c'est que le fait de considérer que les gens qui ont un pénis sont des hommes et que les gens qui ont un vagin sont des femmes, c'est une construction sociale. Voilà, une assignation artificielle que le corps médical fait à la naissance. Alors, dans la grande majorité des cas, cette assignation, elle tombe juste, hein, genre moi, par exemple. C'est-à-dire que quand je suis né, on a vu que j'avais un zizi, on a dit c'est un garçon, et il se trouve qu'on avait raison. Mais quelquefois, elle tombe faux. Et les gens pour lesquels elle tombe faux s'appellent des personnes transgenres, et ce sont ces personnes qui sont concernées par les opérations chirurgicales dont je vous parle aujourd'hui. Opérations dont le but, donc, est de faire correspondre la morphologie de la personne avec le sexe auquel elle se sent elle-même appartenir. Mais alors, depuis quand est-ce que c'est possible? Bon, la première occurrence d'un truc voisin de ça, c'est en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Il y a un médecin qui raconte qu'on lui a confié une petite fille et qu'il s'est rendu compte en observant ses parties intimes qu'en fait c'était un garçon dont les dites parties étaient rentrées à l'intérieur. Et il a opéré pour que ça cesse d'être le cas. Mais cet enfant, en fait, c'était plutôt ce qu'on appelle une personne intersexe. Je me suis quand même un petit peu renseigné sur tout ce
truc.
Voilà, c'est-à-dire une personne dont la morphologie n'est pas clairement mâle ou clairement femelle. On ne sait pas très bien si c'est un zizi ou une zézette ou les deux. Et ça, c'est ce qu'on appelait effectivement avant les hermaphrodites.
Donc, ah, on dit plus.
On dit plus.
Il y a que les escargots.
Oui, voilà, exactement. Donc, c'est pas vraiment de ça qu'on parle quand on parle de chirurgie de réassignation de sexe. Pour que ça arrive, il a fallu qu'un médecin reconnaisse qu'on puisse avoir un zizi et se sentir femme et l'inverse. Et l'une des premières personnes à avoir reconnu ça et qu'on considère souvent comme le père de la médecine transgenre, c'est un médecin allemand qui s'appelait Magnus Hirschfeld dans les années 1910. Vous voyez, c'est très ancien. Alors, il y a beaucoup d'informations sur son travail qui ont été perdues parce que les nazis les ont brûlés dans leur auto-da-fé. Vous imaginez bien que ce genre de recherche sur les changements de sexe, c'était pas un truc, pas vraiment la tasse de thé des nazis. Mais d'après ce qu'on peut prouver, c'est la clinique de Magnus à Berlin qui a été la première à proposer des chirurgies de réassignation de sexe. Et la première personne qui aurait subi cette opération, c'est une personne née avec un pénis qui s'appelait Rudolf et qui se sentait femme. Magnus l'a d'abord castré en 1922, puis son pénis a été remplacé par un vagin artificiel qui lui a été greffé et elle est devenue Dora. C'est la première opération d'une personne avec un pénis qui devient une personne avec un vagin. Et le contraire alors, une personne avec un vagin qui devient une personne
c'est
avec un...
C'est peut-être plus dur à faire encore.
Mais oui, c'est venu légèrement plus tard sans doute parce que c'est quand même plus compliqué à faire. Il ne faut pas enlever, enfin il faut construire en fait. Il faut un donneur. Non, il ne faut pas... on s'auto-donne. Ça s'appelle une phalloplastie. Il y en a eu probablement une première Vitov mal documentée en 1936 en Russie, mais celle qui est considérée aujourd'hui comme la mère de toutes les phalloplasties. La mère de toutes les phalloplasties. C'est celle qui a reçu Laura Dillon à la fin des années 40. Laura, elle était née fille, elle se sentait garçon. Et elle allait voir un chirurgien qui avait travaillé sur la reconstruction des visages des grands blessés de la Première Guerre mondiale et qui a réussi sur elle une phalloplastie complète. J'ai lu en quoi ça consistait, comment on faisait exactement pour construire un pénis. C'est un petit peu graphique comme description, donc je, à l'heure du goûter, peut-être que je vais vous l'épargner. Mais grâce à ça, Laura a pu finir sa vie comme un garçon. Voilà, quant à moi, enfant, peu de temps après avoir appris le truc de la guerre, j'ai appris que l'accouchement des femmes était quelque chose de très douloureux.
Et je me suis dit,
ouais, en fait, ça se vaut. Nous, on va à la guerre, les femmes accouchent. Franchement, égalité. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a plus le service militaire, donc vraiment tout
bénef. Vous êtes gagnant, vous avez bien fait de garder votre zizi. Une phalloplastie complète, c'est une chose de reconstruire un pénis, mais encore faut-il qu'il fonctionne.
Oui, tout à fait. Alors, généralement.
C'est ça qui paraît très compliqué.
Ce fonctionnement, vous avez fait le geste du fonctionnement.
J'ai fait un petit geste.
Il y a deux façons de fonctionner. Disons qu'il y en a une qui est courante et il y en a une autre qui est plutôt dans certaines situations intimes. Cette deuxième, dans les situations intimes, ça fonctionne pas toujours très très bien. Et il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des gens qui mettent une sorte de cavité qui peut se gonfler à l'intérieur.
Une pompe. Se gonfle à la main.
Exactement. Oui. Et il y a des fois aussi, j'ai vu qu'on pouvait mettre aussi des choses qui sont un petit peu dures par défaut.
C'est pas parce que vous êtes homme dans votre tête que vous pourrez avoir les qualifications. Vous n'allez pas pouvoir enfanter, je veux dire.
Vous n'allez pas pouvoir enfanter. Et voilà. Probablement que le plaisir ne se sentira qu'à la base de votre engin, là où il reste des tissus originels de votre vagin caduc.
Nous sommes remontés très très loin, puisque nous sommes remontés à la base de l'engin de David Castello-Lopez.
Dont on peut retrouver les origines en podcast.
Les origines de la base de mon engin.
Avec des photos.
Sur toutes les applis. Bon, on devrait mettre des photos sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Bah, c'est pédagogique. Hein.
Vous m'avez mis en appétit, mon cher David, avec la phalloplastie
complète.
Comment voulez-vous
que je fasse une paella après ça?
Si, on a très envie de déguster paella, votre paella.
C'est le truc où on met des gambas, on enlève la queue.
Ça, oui, voilà.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Nous évoquions aujourd'hui ces personnages de l'histoire qui furent victimes de folles rumeurs. Notre expert gastronomique Olivier Pousse lui-même n'y a pas coupé. Certains ont prétendu que certains soirs, après nous avoir vanté les mérites des circuits courts, nous avoir saoulés avec le respect du produit, eh bien, il s'ouvrait en loose day une petite conserve de raviolis buitoniques. Il s'accompagnait de croustibat findus.
Qui peut te battre,
les petits croustibats? Est-ce que c'est pas vrai, ça, Olivier? Est-ce que c'est pas une vraie rumeur, ça?
Je nierai jusqu'au dernier jour.
Oui, vous nierez en bloc, mais moi, je sais que c'est vrai. Olivier Pousse, aujourd'hui, vous nous parlez d'un plat, les origines d'un plat typiquement espagnol, la paella.
La paella, qui est un... Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi ça s'appelle la paella? D'où vient ce nom paella?
Oui, je l'ai su, mais je ne le sais plus.
Donc ça
c'est pas ça veut pas dire poil.
Si, c'est l'ustensile qui sert à confectionner ce plat qu'on appelle la paella. C'est une poêle un peu particulière, hein,
très long manche.
Ouais, et haute de 5-6 cm de manière à permettre une cuisson tout à fait.
On est la reconstruction. Si on étudie l'émission qu'on la dissecte, toutes les interventions hors récit de Stéphane ont une allusion ou en tout cas peuvent être entendues à un second degré sexuel.
Mais c'est vous.
C'est fascinant. C'est vous qui avez votre manche. Là, votre manche, qu'est-ce qu'il vient faire là?
Et je vais vous faire un petit cadeau parce qu'il s'agira tout à l'heure de moules et de queues de crevettes, voyez-vous.
Non.
Concentrons-nous sur les origines de la paella, les amis. Nous sommes à l'heure du goûter. Voilà, les enfants nous écoutent.
Bon, on va revenir à notre plat espagnol de la région de Valence parce que figurez-vous que depuis 10 siècles, dans la région de Valence, il y a une importante culture de riz. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le riz est un produit qui est cultivé là-bas depuis que les Arabes dirigeaient ces provinces espagnoles. Et ils ont vraiment développé la culture du riz. Et ce plat était un plat plutôt de paysans. Et à l'origine, ce n'était pas du tout un plat dans lequel on mettait les produits de la mer, mais dans lequel on mettait le produit de la ferme, c'est-à-dire de la volaille, poulet ou du lapin,
chorizo.
Et le produit du potager, le chorizo étant arrivé un petit peu plus tard.
Le chorizo qui est un très bon produit du potager. Moi, j'adore le chorizo
potager. Les chorizotiers, ça, c'est...
Il faut avoir des chorizos véganes maintenant, faits à partir de pois chiches et trucs.
Voilà. Et après, évidemment, on a commencé à y incorporer les produits de la mer pour en faire le terre-mer qu'on connaît. Et c'est le général Franco qui fera de ce plat le plat officiel de l'Espagne. Savez-vous pourquoi il a choisi ce plat?
Parce qu'il réunit tous les ingrédients qu'on trouve en Espagne?
Non, mais pensez plutôt à la couleur. Eh bien,
le jaune avec le riz safrané,
exactement, et le rouge, la tomate et le poivron. Voilà, sont les couleurs du drapeau espagnol.
On dit beaucoup de mal de Franco, mais
il a fait une chose bien dans sa vie.
La paella, mettre en avant la paella.
La spécificité d'une bonne paella, c'est le riz. Donc il faut un riz espagnol. Un riz rond, qui est un riz à grande capacité d'absorption de liquide.
C'est comme un riz à risotto, alors?
Alors non, parce que le riz à risotto donne quelque chose d'un petit peu plus compact, d'un petit peu plus gluant. C'est pas exactement la même variété, la variété espagnole.
Vous avez un nom?
Alors oui, je vais vous donner le nom de la variété de riz.
Évidemment, il a du mal à le prononcer, c'est pour ça qu'il...
Non, ça s'appelle la bomba.
La bomba.
La bomba. Vous demandez du riz espagnol bomba. Et en fait, c'est une cuisson par absorption. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 300 grammes de ce riz à paella. Alors, du coulis de tomate, parce qu'en ce moment, des tomates fraîches, il n'y en a pas. Du bouillon de volaille, 1 litre à peu près. Poivron, gousse d'ail, oignon. Alors, de la volaille, hein. Moi, je prends des pilons de poulet parce que c'est un peu plus gras. Je trouve que le blanc a un côté un peu sec que j'aime moins. Des moules, évidemment. Des crevettes. Des calamars, très important, le fameux chorizo, en petit dé, 100 grammes de chorizo,
très piquante, hein.
Et surtout le safran, parce que c'est lui qui va donner, alors évidemment une petite saveur, mais aussi qui va donner la couleur à votre riz. On épluche, on coupe grossièrement les légumes, on fait frire le poulet, on rajoute l'oignon, l'ail, les calamars, puis le riz, et on mouille avec le bouillon et le coulis de tomate. On laisse cuire et bien imbiber tout ce liquide, le riz va l'imbiber au fur et à mesure. Si on voit d'ailleurs que ça devient trop sec, on n'hésite pas, on en rajoute. Et puis, 10 minutes avant, on va rajouter les crevettes, le fameux chorizo qui va parfumer, quelques langoustines éventuellement si on le souhaite. Et surtout, on va bien laisser mijoter sans trop remuer. Parce que ce qui est sympa avec la paella, c'est, vous savez, il faut qu'il y ait une espèce de petite croûte qui se forme aussi. Vous avez un mélange de texture entre un riz qui est plus moelleux au-dessus, qui est un peu plus sec, un peu plus croûté en dessous au contact de la poêle. Et puis au-dessus, évidemment, vous avez vos moules qui se sont ouvertes, délicieuses, les queues de gambas, etc. etc.
Les moules qui sont ouvertes comme Sheila devant le journaliste à qui elle a tout raconté. Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr, Stéphane. Mmh. Vous y passez du temps sur le site d'Europe 1?
Ah, énormément.
Ah, c'est fou, hein. On s'y perd.
Je fais de chronique en chronique.
Mais c'est, ça, je ne fais que ça, moi.
Ah, vous n'êtes plus que là. Hein.
C'est devenu toute ma vie.
Oui. Hein. Acteur studio, il est très très fort. Stéphane, vous avez aussi le mot de la fin dans cette émission. Oui. Vous décortiquez pour nous, non pas des gambasses, mais des expressions françaises. Et aujourd'hui, quelle est cette expression, Stéphane?
Sans cri et gare.
Sans cri et gare. Et qui ne vient pas d'une gare SNCF, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai tenté ma chance et je me suis ridiculisé.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Après une bonne paella, une bonne phalloplastie, c'est l'heure de découvrir l'origine d'une expression française avec vous, Stéphane Bern. C'est le mot de la fin. Aujourd'hui, l'expression « sans cri et gare ».
Oui, quand une personne débarque à l'improviste quand un événement arrive, de façon à vos souhaits totalement impromptue, on dit alors qu'il survient sans cri et gare. Mais ça va être, d'où vient cette expression? Je vous le demande.
Alors, est-ce que ça vient, comme je le disais, de la gare SNCF? Dans ce cas, pour quelle raison une personne hurlerait « gare » C'est tout de même très étrange.
Oui, ça serait d'autant plus étrange, mon cher Mathieu, que l'expression date du XIIe siècle. Les rails, la gare SNCF,
tout ça n'existait pas.
À cette époque, sont encore très rares, vous voyez.
Certes.
Inutile donc d'imaginer un chef de gare crier « gare !» De la même façon qu'un marin pourrait crier « terre » en étant en mer. Vous voyez, tout ça, évidemment, n'a pas de sens.
Oui, vous m'avez ridiculisé, on peut avancer, Stéphane. Oui.
Plus sérieusement, « gare » s'orthographiait à l'époque « gare », G-U-A-R. Cela signifiait « prends garde », mais pas au sens de « faire attention », non. Ça signifiait « garez-vous, mettez-vous sur le côté, mettez-vous à l'abri ». Dès lors, celui qui surgissait sans crier « gare » le faisait sans prévenir au préalable qu'il était bon de se protéger, donc de se mettre sur le bas-côté. Pour ajouter à la confusion, le mot « garde », toujours au XIIe siècle, se prononçait aussi « gare ». Au XVIe siècle, on préfère utiliser la formule « sans dire gare » plutôt que « sans crier gare ». Au XVIIe siècle, dans l'Amphitryon de Molière, on trouve la formule « Dieu te gare ». Mais « garde », G-A-R-D, bref, les deux mots se ressemblent et finalement fusionnent « gare »,« garder », etc. La notion de se garer est d'ailleurs toujours de mise aujourd'hui, puisque en Grande-Bretagne, on dit « suddenly, without warning ». Car quand on se gare avec une voiture et qu'on demande aux autres de prendre garde, on fait quoi?
On met ses clignotants.
Bravo. Ils ont enfin compris. Voilà. Bravo. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre se termine, Mathieu.
Oh non, c'est pas vrai.
Si.
C'était notre thème du jour, Stéphane. C'est pas vrai. Ils ont été victimes d'une folle rumeur. Alors, ma question est simple, Stéphane. Rumeur, je veux bien, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Selon vous, laquelle des rumeurs qu'on a évoquées aujourd'hui était la moins infondée? Henry Ford à la Maison Blanche? Pompidou chaud lapin? Ou plutôt Madame Pompidou chaud de lapine? Ou Sheila qui serait en fait Sheila?
Alors là, Henry Ford, comme ça j'ai moins d'ennuis.
Mais je crois que vous avez raison.
À la fois avec les Pompidou et à la fois avec Sheila.
Oui, puis c'est la plus probable, c'est celle qui avait quand même un fondement.
Non, et puis lui, ça le flattait, cette rumeur.
Il était quand même content, il ne le démentait pas, comme vous le disiez.
Voilà, exactement.
Le mystère demeure, on n'a pas toutes les réponses, c'est vrai, en revanche, on connaît le programme de demain, Stéphane.
Oui, demain, tu faisais quoi avant?
Avant quoi? Avant d'être là avec vous?
Non, avant, dans la vie. Non, parce que nous, on réunit des personnages, trois, qui ont changé de voix, changé de vie, changé de métier, si vous voulez. Léon Blum, il était écrivain, il devient homme politique. Louis Jouvet, il a fait des études de pharmacien, il devient comédien.
Et le pape François, alors? Il a changé de métier pour être pape. Il a commencé par être videur de boîtes de nuit en Argentine. Et oui, je pense qu'il vous aurait même refoulé, Stéphane.
Oh, détrompez-vous, Mathieu. Je vous raconterai demain.
Ah, à demain, mon cher Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.